RIFT, connu pour être le berceau de l'humanité,
la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du RIFT africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le RIFT est africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
RIFT, c'est tout de suite sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.
Les colères froides de l'Oldoinyo Lengai. L'Oldoinyo Lengai, ou la montagne de Dieu en Maasai, est un stratovolcan actif qui culmine à 2962 mètres. Il pointe dans un paysage composé de savanes, de vallées, limitées à l'ouest par le grand escarpement du Rift et au nord par le lac Natron. Il est mondialement connu pour sa lave de couleur blanche et particulièrement froide, 490 à 600 degrés Celsius seulement, alors que des laves comme celles issues du Kilauea à Hawaï peuvent atteindre 1200 degrés Celsius. Ce volcan se caractérise ainsi par des phases effusives et explosives avec des colonnes de lapis, de cendres et de gaz pouvant aller jusqu'à une dizaine de kilomètres, associées à des crises sismo-volcaniques peu profondes, de 15 à 30 kilomètres. Les conséquences des éruptions de l'Oldoinyo Lengai sont multiples avec des aléas directs, des retombées de cendres, des coulées de lave, des projections balistiques, des gaz et les avalanches de débris, ou des aléas indirects. Des lahars et des glissements de terrain, certains pouvant générer des tsunamis à partir du lac Natron. Certains phénomènes peuvent être concomitants et se produire au cours de l'éruption. D'autres, asynchrones, peuvent se manifester plusieurs mois, voire plusieurs années après. Par exemple, par des coulées boueuses lorsque les cendres sont emportées par les pluies, des glissements de terrain et des avalanches de débris depuis les cônes éruptifs et les versants instables. Les menaces volcaniques peuvent alors se manifester dans des temporalités qui vont au-delà de la crise éruptive. La dernière grande éruption du volcan s'est produite en septembre 2007 et a duré jusqu'en avril 2008. Les manifestations volcaniques se sont alors caractérisées par des cendres, des coulées de lave et des gaz menaçant directement le territoire Maasai. Les cendres déposées sur un axe est-ouest selon les vents dominants ont été les plus néfastes pour les humains et l'environnement. Les retombées incandescentes ont brûlé les sols et la végétation, l'eau douce est restée impropre à la consommation pendant plusieurs semaines, des bombas, villages Maasai, ont été détruits et des toits, des réseaux et des infrastructures endommagés, jusqu'à 15 km au-delà du centre éruptif. Les cendres et les gaz éjectés lors de l'éruption ont provoqué des problèmes respiratoires aux humains et aux autres animaux. L'accès aux ressources alimentaires et à une eau potable a nécessité le déplacement des populations et de leurs troupeaux. Entre 5000 et 7000 habitants ont ainsi quitté leur village pour quelques semaines et parfois plus de 10 mois. L'insécurité alimentaire a nécessité l'intervention des ONG et de la Croix-Rouge qui ont fourni une aide à près de 36 000 personnes. La répartition spatiale des aléas volcaniques et de leur intensité dans l'espace de l'Oldoinyo Lengai est un élément fondamental pour élaborer des stratégies qui permettent aux Maasai de continuer à vivre dans cet espace où ils entretiennent une relation mystique avec la montagne de Dieu. Dessine-moi comment fonctionne un volcan. Les systèmes volcaniques étant omniprésents au sein du Rift, il apparaît intéressant d'examiner ces structures en profondeur. Chaque individu construit des connaissances sur le monde qui l'entoure et dont on lui parle à partir de sa propre existence, des situations de sa vie quotidienne et de ses interactions avec les personnes de son entourage. Ces connaissances dites naïves jouent un rôle dans l'apprentissage et la compréhension des savoirs scientifiques. En général, elles diffèrent des connaissances scientifiques et de celles qui sont enseignées dans le système scolaire. Des recherches internationales ont ainsi identifié des connaissances naïves à propos des processus magmatiques et volcaniques pouvant poser des difficultés de compréhension. Par exemple, elles ont montré que lorsque l'on demande aux enfants d'où provient la lave des volcans, deux connaissances naïves opèrent fréquemment. Une explication indépendante de la structure et du fonctionnement du globe terrestre, comme « des pierres tombent dans le cœur du volcan » et ça provoque une éruption. Ou, avec la température du soleil, ça commence à fondre et plus ça chauffe, plus ça monte. et une explication dépendante de la structure interne de la Terre, comme « la lave vient d'un océan de magma qui se trouve au cœur de la Terre et remonte en surface jusqu'au volcan ». Ces recherches montrent combien ces explications systématiquement rencontrées chez les élèves sont considérées comme des invariants et demeurent résistantes à l'enseignement. Elles soulignent la nécessité de les prendre en compte dans l'enseignement des sciences, plutôt que de les ignorer, si l'on vise, comme dans notre exemple, à faire comprendre les modèles actuels des processus magmatiques décrits ci-dessous. La vision scientifique des chambres magmatiques a en effet fortement évolué au cours des dernières décennies grâce à l'amélioration des techniques de mesure géophysique, analyse des systèmes actifs et pétrologique, analyse des roches sur des systèmes actifs ou fossiles. Elle est passée de celle de grands réservoirs remplis de liquide, chambres magmatiques, à celle de systèmes plus complexes composés de nombreux réservoirs connectés, principalement remplis de bouillies cristallines, systèmes riches en cristaux. Ce changement de paradigme s'est produit au début des années 1990 dans la communauté scientifique travaillant sur les dorsales médio-océaniques et une quinzaine d'années plus tard dans la communauté travaillant sur le magmatisme continental. D'un point de vue volcanologique, cette différence est majeure, car s'il est facile de faire migrer un magma pauvre en cristaux pour alimenter des éruptions en surface, des processus particuliers sont nécessaires pour provoquer une éruption à partir d'une bouillie cristalline, par exemple une recharge du réservoir avec des magmas venant de plus profond. Les éruptions doivent donc être considérées comme des événements exceptionnels pour un système magmatique donné. Il est notable que la zone de stockage et de transfert des magmas, que l'on appelle plomberie magmatique, est en général développée au sein de la croûte terrestre et non du manteau ou du noyau, comme la vision naïve l'image parfois.
Rift,
connu pour être le berceau de l'humanité,
la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du rift africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le rift est-africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
C'était Rift sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.